D'abord, il a 50 ans d'expérience. Il est jeune depuis plus longtemps que nous, c'est tout. Voilà. Il est écologue. De formation, c'est un agronome. Et il a travaillé dans différentes universités. Il a travaillé pour la Fondation Nicolas Hulot. Il a participé au Sommet de la Terre à Rio en 1992.
En tant qu'UNESCO.
Il a travaillé pour l'UNESCO. Il a beaucoup travaillé à Madagascar aussi. Ah. Il connaît bien cette région de l'Afrique.
Mon deuxième pays.
Voilà. Et pour en revenir à son livre, je vois qu'il y a trois personnes qui ont eu la chance, parce qu'il les a croisées en bas, de pouvoir l'acquérir et elles le tiennent religieusement. Moi, j'ai juste eu l'occasion de le feuilleter. Ce que j'en ai retenu, c'est que ça a l'air agréable. Il y a des belles photos. Et ça a l'air aussi très didactique. Il y a des petits schémas, des choses. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on est tous conscients des enjeux écologiques. Mais pour aller plus loin, il nous manque souvent un petit peu des bases, des fondamentaux. Et je crois que c'est ce qu'apporte Roland Albignac dans son livre. Voilà. Je vais lui laisser la parole. Il parlera de son livre beaucoup mieux que moi. Voilà. Et je vous rappelle après, dédicace, où vous pouvez le retrouver en bas. Voilà. Bonne conférence.
Merci. Oui, alors ce livre, c'est ça, c'est un livre que j'avais en tête, on m'avait demandé de faire depuis longtemps, mais j'ai un gros défaut, je suis un grand voyageur, et j'ai parmi, dans la salle, quelques amis déjà présents, parce qu'ils sont de Saint-Étienne, et ils ont appris que j'étais dans le coin, donc ils viennent un peu nous voir, et donc ça c'est quelque chose d'important. Je reviendrai même certainement dans la région par rapport à des activités universitaires, mais grand public, nous en reparlerons ultérieurement. Alors, ce livre, c'est effectivement une grande connaissance pratique. J'ai été chercheur de terrain sur Madagascar, d'abord parce que j'étais agronome quand je suis allé là-bas, dans un centre de recherche, et j'ai eu la chance de pouvoir faire une thèse sur ces petits animaux, vous voyez, là, qu'on appelle des lémuriens, le lémurcata, et si vous voulez, le livre, il est tout à fait aussi représentatif, cette image du livre, avec, vous voyez ici devant, ce sont des plantations de thé, et derrière, la forêt naturelle. C'est dans le sud de l'Inde, ça pourrait être aussi au Sri Lanka, d'accord ? Et qui démontre une fois, très synthétiquement, ma démarche. L'homme détruit la forêt pour faire des plantations, que ça soit du palmier à huile, du thé, des cacahuètes ou autre chose, c'est toujours sur la forêt que l'homme qu'il la détruit pour faire son agriculture et son élevage qu'il pratique depuis 12 000 ans. Il y a 12 000 ans que l'homme a inventé l'agriculture et l'élevage et la domestication animale. Donc c'est pas si vieux que ça. Et c'est parce qu'il y a eu un réchauffement climatique à l'époque que nous avons profité de ces techniques dans le bassin méditerranéen essentiellement et en Asie du Sud-Est. D'accord ? Voilà. Donc, et vous avez bien sûr entre les deux donc l'impact humain à gauche, une photo assez sympa en contre-jour au Kenya pour montrer donc une nature à peu près intacte, et puis mes petits lémuriens qui sont là pour m'encourager, et parce que c'est grâce à eux un peu que je suis là dans les premières connaissances biologiques. Voilà, donc c'est regard et perspective d'un écologue et pas d'un écologiste. Vous remarquez la nuance qu'il y a, qui n'est pas un détail, qui est une approche pour me détacher de l'écologie qui est une science. Normalement, le mot a été inventé par des scientifiques, les sciences écologiques. J'ai fait partie à l'UNESCO de la division des sciences écologiques. Mais ce terme a été repris autrement, je ne vous en donne pas les détails, et donc du coup ça crée une confusion. Souvent, malheureusement, comme disait Camus, c'est le désastre un peu des mots, quand ils sont mal interprétés, ils peuvent conduire à des incompréhensions catastrophiques. Moi je suis pour la protection des mots, comme pour la protection des brevets, etc. Donc, c'est un peu dommage, mais tant pis, c'est comme ça, on ne va pas refaire le monde. Voilà. Et vous avez même mon mail, si ça vous intéresse un jour de vous contacter. C'est avec grand plaisir. D'accord ? Et l'éditeur, donc, est Terre Vivante de ce livre. Donc, comme vous l'avez dit, il est à dispo. Bien, alors, il y a deux grands chapitres dans ce livre. Une base un peu de connaissances, d'historique, pour savoir comment tout ça s'est mis en place, et d'une part. Et puis un deuxième, des perspectives. Je n'ai pas fait un livre pour refinir par « c'est la catastrophe, on ne peut plus rien faire, on est tous des destructeurs, etc. » Mais ce sont des perspectives. Ça veut dire qu'il y a des propositions. Il faut rester optimiste. Le livre, il est aéré, il est photo. Il est fait justement pour être optimiste et pas pessimiste. Hein. On voit tout ça. Il faut prendre conscience que ça a de la valeur patrimoniale, mais aussi une valeur économique. Hein. Souvent, la biodiversité, on ne pourrait pas s'alimenter, on ne pourrait pas se nourrir s'il n'y avait pas ces végétaux et ces animaux. Donc, il faut savoir les gérer de manière convenable, hein, équitable, viable, vivable, etc. Ça, je vous parlerai du développement durable. Donc ça fera partie d'un deuxième chapitre. Ça, c'est à peu près un tiers du livre. Et l'aspect des perspectives, c'est deux tiers du livre. Hein, c'est pour vous dire que c'est argumenté par des objectifs d'expérience et de synthèse de ces expériences, hein, tout à fait pour vous donner des choses concrètes. Ce livre n'a pas été préfacé. Vous imaginez que Hulot, avec qui j'ai eu beaucoup de contacts, aurait pu me le préfacer. Mais il y a aussi Yves Coppens, il y a aussi Alain Bourin-Dubourg, il y a aussi Hubert Reeves qui aurait pu me le préfacer. Mais j'ai voulu me détacher de personnes pour ne pas être imprimé sur une personne particulière, pour garder ce niveau d'indépendance. Hein, ça, c'est très important pour moi. Bien, voilà, maintenant je passe au vif du sujet. Juste pour vous donner une petite idée, la Terre, c'est 4 milliards 600 millions d'années. Hein. L'homme, c'est le genre homo est apparu, les premiers hominidés, il y a 300 000 ans. Donc, imaginez, ça représente, sur un cadran de 60 minutes, ça représente 3 secondes. Nous sommes les derniers arrivants sur cette planète. Et ça, il faut en prendre conscience. Et c'est très récent à l'échelle géologique. Toute notre histoire préhistoire, c'est même pas 2 secondes. Donc, vous imaginez l'immensité de ce qu'il y avait avant. Alors, avant, il y avait quoi ? Eh bien, il y avait le Big Bang, etc., du système solaire. Je ne rentre pas dans les détails. Mais il y a eu apparition. Ce qui est important, c'est l'apparition de la vie. La vie, alors, on aime bien savoir toujours comment elle est apparue. Eh bien, malheureusement, on n'a pas d'éléments. C'est compliqué, ça serait utopique, et c'est pas si intéressant que ça. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de savoir comment elle a évolué. Hein, parce que je suis, vous imaginez, néo-darwinien, hein, Darwin a été... Mais il n'y a pas que Darwin, il y a Lamarck aussi, qui ont fait avancer les choses en matière de connaissance de la biologie en général. Donc cette biologie, vous voyez, elle remonte à peu près à 2 milliards, 3 milliards d'années, hein, à peu près. Et puis de là est apparu l'oxygène, parce qu'il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. C'est la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il y a des animaux, des plantes, on ne sait pas, hein, à l'époque c'était... des unicellulaires, eh bien, qui avaient inventé la photosynthèse. C'est-à-dire un élément, comme nos panneaux solaires, hein, de manière un élément qui contenait de la chlorophylle et pour faire la photosynthèse. Donc ça remonte donc à peu près à 3 milliards d'années, 2 milliards et demi. Et vous allez voir, donc après, voilà la suite des événements. 1 milliard d'années, grande différenciation biologique entre 1 milliard d'années et 500 millions. À partir de 500 millions d'années, on a pu, comme l'atmosphère avait totalement changé, avec l'oxygène dans l'atmosphère, parce qu'au départ, l'oxygène n'était que dans l'eau, il a été dans l'atmosphère, il a créé la couche d'ozone qui nous a protégés, la température a baissé, etc., grâce à l'absorption d'une quantité phénoménale de CO2, hein, parce que le carbone, il a été capté par les animaux, hein, et je vais vous montrer comment. Et puis l'homme, vous voyez, les dernières phases, l'homme à peu près à partir de 2 500 000 ans, je dis bien, eh bien l'homme, enfin les prémices de l'homme moderne sont arrivées. Donc c'est, mais l'homme a connu lui-même, hein, depuis 2 500 000 d'années, plusieurs transformations pour arriver à ce que nous sommes depuis. Nous, l'Homo sapiens réel, actif, conquérant de la planète, c'est 50 millions d'années, hein, seulement. Vous voyez, et pour un géologue, le temps géologique, c'est rien du tout. OK ? Et puis la vie sort de l'eau, donc, et il y a eu, ah oui, j'ai oublié simplement ça, l'effondrement de la forêt. Et un truc important, il y a à peu près 300 millions d'années, il y a eu une captation, une fossilisation de beaucoup de végétaux et d'animaux, parce qu'il y a eu certainement des conditions qu'on connaît mal, de fossilisation. Et une des hypothèses, c'est qu'il n'y avait pas de champignons destructeurs de la cellulose. Et certainement, parce que les champignons jouent un rôle fondamental. Et on pense, et en plus, il y avait une activité photosynthétique extraordinairement développée. Donc, les deux alliés ont fait qu'il y a eu une masse végétale qui s'est fossilisée, et d'où la période du Carbonifère, hein, dont vous savez tous ce que c'est. Eh bien, pendant cette période, il y a eu une fossilisation. Donc, si ça s'est fossilisé, ça a fait un puits de carbone pour plusieurs millions d'années. Hein. Et c'est ça qui nous fait soit le charbon avec les végétaux du sol, soit les pétroles avec les micro-organismes dans les fonds océaniques ou lacustres. Voilà. Donc, et c'est ça le problème majeur maintenant, c'est que comme on a trouvé cette ressource compensée, inépuisable, hein, on pense toujours que c'est inépuisable, eh bien, on a exagéré et on en est au cas actuel. Bien. Voilà un peu le cheminement. On continue. Alors, qu'est-ce que l'atmosphère ? C'est la photosynthèse, je viens de vous l'expliquer. Alors, il y a plusieurs éléments là-dedans dans la vie, et j'en arrive à ces fameuses stromatolites. C'est un peu comme des coraux. Vous en avez, la photo du haut représente ces cyanobactéries, hein, qui pratiquent donc la photosynthèse en Australie. Ces stromatolites existent encore aujourd'hui. Et vous avez peut-être entendu parler que nos grands financiers veulent aller sur Mars. Vous avez compris ce qui se passe. Et ils veulent recréer une atmosphère. Et à quoi ils pensent ? Aux stromatolites. Parce qu'ils espèrent que ces animaux ou ces plantes, on ne sait plus, hein, c'est des unicellulaires encore, eh bien, qu'ils vont pouvoir les amener là-bas et refaire ce qu'a fait la nature sur la Terre. Mais ce qu'ils n'imaginent pas, c'est qu'il a fallu plus de 500 millions d'années pour faire de l'oxygène suffisamment en quantité importante. Et puis Mars, c'est pas du tout dans les conditions terrestres. Donc, il y a un peu du rêve. Ça me fait... bon, on n'est pas prêt d'aller s'installer sur la Lune, en quantité, hein, je dis, sur la Lune et sur Mars. On n'est pas prêt d'aller s'y installer, simplement il faut s'y installer avec des réserves et des choses qu'on amènera de la planète Terre. Donc ça restera anecdotique. Et là, vous avez ici des fossiles, hein, parce que c'est les premiers êtres vivants qui font du calcaire, des carbonates. Parce que vous avez une deuxième façon de fixer le carbone, c'est la photosynthèse, hein, vous savez tout ça, mais aussi le carbone. Les roches calcaires, c'est du carbone stocké. C'est un puits de carbone. Je ne sais pas si vous le saviez, hein, sinon je vous l'apprends. Eh bien, les coquilles, donc les squelettes de tous ces animaux calcaires vont se fossiliser, vont bloquer le carbonate, donc bloquer le carbone là-dedans. Voilà le mécanisme de la photosynthèse. Je ne vais pas vous le détailler là. Hein, je ne vous fais pas une leçon d'écologie. Mais il est dans le livre. Le livre, il est fait pour le lire par petites étapes, en fonction de certains intérêts, de le refermer, d'en lire 2 pages ou 10 pages, et puis de le refermer. C'est pas pris Goncourt. C'est pas un roman qui est écrit. Alors, les roches qui captent le CO2, là aussi, c'est juste pour vous le rappeler, hein, les carbonates donc sont calcaires, et les coquilles des mollusques, les squelettes des coraux, etc., donc amassent et donc continuent d'amasser, puisque ces êtres-là sont toujours sur Terre, mais ils amassent dans des conditions, si vous voulez, tellement lentes par rapport au rejet qu'on pratique, que le bilan n'est pas équilibré, hein, il est très déficitaire. Ok ? Voilà, donc c'est simplement là pour vous montrer un peu ces systèmes. Là aussi, c'est expliqué, c'est daté, et donc je préfère aller vite pour rester dans un pas de temps relativement raisonnable. Voilà, ça c'est important. Vous voyez, le dioxyde de carbone en bleu, hein, voilà, à l'époque, 4 milliards, 5, il a fallu attendre les traces des premiers êtres vivants photosynthétiques pour voir la chute importante. Avant, c'était les calcaires ou autres. Et c'est surtout à partir de 3 milliards d'années que les choses évoluent. Et donc, dioxyde du carbone qui va chuter, puisque maintenant, il est sous les 1, hein, c'est quelques ppm simplement, donc il est en quantité très, très faible. Par contre, l'oxygène, lui, a été produit, et du coup, ça a modifié complètement l'atmosphère, où il y a maintenant une dominante d'azote, d'oxygène, et très peu de CO2. Le CO2 représente des... Mais comme le méthane, comme d'autres gaz à effet de serre, ils ont une influence importante. Et comme nous ne supportons pas la variabilité, nous ne supportons pas le changement, hein, parce qu'on adapte nos techniques et autres à des choses fixes, et on ne supporte pas l'incertitude et l'incertitude scientifique. Vous avez vu qu'avec la Covid, l'incertitude scientifique et les contradictions entre scientifiques, j'ai plus besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer tout ça. Vous l'avez vécu comme moi, et vous voyez qu'on est très loin de maîtriser la nature. Moi, c'est un peu le... Donc ça m'a apporté, un, l'occasion de faire le livre, parce que j'étais en retraite forcée, et en plus d'améliorer ma réflexion à ce sujet. Donc, alors ça, c'est juste pour vous montrer, c'est dans le livre. Il faut regarder ça en détail, calmement, autour d'un whisky, par exemple. Hein. Bien, mais enfin, c'est compliqué, et c'est pour simplement montrer que la vie, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique, et c'est pas fini. Le problème, on croit qu'on est arrivé à un état... L'équilibre de la vie, c'est dynamique. Hein. C'est-à-dire, ça, c'est comme un avion. Je citais souvent mes étudiants les avions ou les voitures pour expliquer l'évolution. Hein. Un avion, ça, c'est en équilibre quand ça a une vitesse qui donne la portance. Si vous coupez les moteurs, l'avion se casse la figure. Eh bien, la dynamique biologique, c'est la même chose. C'est une dynamique permanente. Hein. Et si on casse le système, eh bien, c'est comme l'avion, il se casse la figure. Voilà. Et là, on est de plus en plus dans des conditions critiques sur ce plan-là. Alors, là aussi, je vais aller vite. Hein, c'est pour montrer la diversité des formes, des unicellulaires du début. On arrive aux animaux, aux plantes, etc., aux protistes, aux champignons. Hein, c'est pour montrer la diversité, donc, d'unicellulaires en haut, en jaune, enfin, jaune, oui, et en bleu, tout ce qu'on appelle les eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui contiennent un noyau et l'ADN. Alors que dans les premiers êtres unicellulaires, il n'y a pas de noyau, hein, et l'ADN est dans la cellule. Bien. Bon, ça, il faut regarder ça de près. Ça peut se faire dans un cours, ça ne peut pas se faire dans une conférence telle que la nôtre. Alors, la vie, si vous voulez, est liée aux extinctions massives. J'ai à côté de moi quelqu'un avec qui on avait discuté, hein, parce que je lui disais, hein, Alain, je te disais que la nature ne fait pas du neuf avec du vieux, et en réfléchissant, on me dit, mais pour qu'elle redémarre, il faut bien qu'il y ait des choses qui restent. Bon, donc je suis bien d'accord, mais c'est de la provoque, hein, je suis un grand provocateur, et donc j'aime bien, et le gros, si vous voulez, nous ne serions pas là, hein, si les dinosauriens, s'il n'y avait pas eu l'extinction massive d'il y a 66 millions d'années, et si les dinosaures, qui sont nos ancêtres, n'avaient pas disparu. C'est grâce à eux qu'on est là, sur Terre, mais c'est grâce à leur disparition qu'on a pu se développer. Donc, une extinction de masse, c'est une catastrophe pour les espèces qui sont condamnées à disparaître, c'est une chance pour celles qui sont capables d'évoluer et de se reconstituer et de reconquérir un milieu nouveau. Voilà, il faut le voir aussi sur un plan dynamique. Donc, s'il y a la sixième extinction, puisqu'on en parle beaucoup, j'anticipe sur ce que j'ai fait dans les projections, eh bien, ça conduira bien sûr à des catastrophes. Et les premiers touchés, ça sera qui, à votre avis ? Ça sera nous. Hein ? Nous, nous sommes les dinosaures, maintenant, du système. Et donc, on est les premiers sur la liste des disparitions. C'est pas la nature s'en remettra. Je dis, vous allez voir plusieurs fois, laissons la nature faire. La nature s'en sortira. La planète, ça m'énerve quand j'entends dire la planète est en danger. Non, nous sommes en danger. Là, c'est certain. Mais la planète, elle s'en remettra. Elle en a vu tellement d'autres dans sa vie de planète que on a encore à peu près 2 milliards d'années où on est sûr de pouvoir vivre sur la planète. Après, de toute façon, la planète va griller. Le soleil va changer de nature et il va nous griller. Donc ça, c'est dans la logique lointaine. OK ? Voilà, ça, c'est la dernière extinction. Donc toujours, les plus évolués disparaissent. C'est ça l'esprit. Et Alain, tu es d'accord avec moi ? Bon, non, parce que j'ai pensé à lui quand j'ai rédigé cette partie. Ça a été. Vous voyez, les discussions sont toujours très, très intéressantes. J'ai discuté avec trois dames tout à l'heure, qui n'étaient pas très convaincues de la chose pour le bouquin, et puis que j'ai retourné comme une crêpe, mais qui. mais qui me l'ont rendu parce qu'on a eu un dialogue très intéressant et justement qui me confirme dans l'appréciation de ce que je dois dire pour convaincre. Voilà. Alors, là, il faut savoir, ça c'est intéressant, c'est pour ça que j'insiste un peu, la Pangée, vous avez tous entendu peut-être parler de la Pangée, mais en tout cas du Gondwana. Je ne sais pas pourquoi, la Pangée, c'est moins connu que le Gondwana. Le Gondwana n'est qu'une partie de la Pangée. Vous voyez, il y a donc 250 millions d'années, un peu plus, tous les continents terrestres, toute la partie terrestre était concentrée. Et puis, à partir de 160 000 ans, vous voyez, il y a un craquement. Donc, entre les parties continentales du nord, qu'on appelle la Laurasie, et les parties continentales qui vont vers le sud, qui est le Gondwana. D'accord ? Et puis, petit à petit, ça s'écarte, et vous arrivez à l'époque moderne où tout est séparé. Et puis, si vous allez dans le prolongement, dans à peu près 300 à 400 millions d'années, tout sera à nouveau regroupé. C'est lié à ce qu'on appelle, ce que Wegener a découvert, la théorie de Wegener de la dérive des plaques et des continents. D'accord ? Donc ça, et regardez en accéléré ce que ça donne. Alors, en particulier l'Inde et Madagascar, regardez, qui part complètement butée et qui a fait l'Himalaya. Et l'Afrique qui est en train de nous pousser. Vous savez que l'Inde a noyé, a complètement bloqué la mer de Tétis. Il n'y a plus de mer de Tétis qui existait parce que ça a été poussé. Et j'étais allé dans le Tibet, au-dessus de Lhasa, à 5300 mètres. Eh bien, vous aviez à 5300 mètres un fond océanique qui était à plus de 5000 mètres. Et les amis géologues qui étaient là, ils pleuraient presque. Parce que retrouver un fond océanique de moins 5000, le retrouver à plus de 5000 mètres, c'est-à-dire qu'il a été relevé de 10 000 mètres. Vous imaginez ? Donc cette animation, ce choc. En accéléré, on voit le choc. Nous, à notre niveau, bien sûr, on est trop petits pour voir ça. Mais c'est intéressant et c'est très pédagogique, je trouve, ce schéma-là. Bien, alors... Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour montrer la capacité évolutive des végétaux, une fois qu'ils se sont développés, parce qu'eux aussi ont bénéficié d'extinctions passées, que je cite dans le livre, mais bien sûr, je ne vais pas tout développer ici, ça serait trop long. Et c'est pareil, j'ai repris les mammifères à titre d'exemple, ça va des mammifères comme l'ornithorynque, tout en haut, là, vous voyez, ça c'est l'ornithorynque. C'est un animal qui vit encore en Australie, qui est un véritable fossile vivant, qui pond des œufs et qui a un bec de canard. Et c'est un mammifère. C'est-à-dire qu'il a des poils, des glandes mammaires, et il pratique ce qu'on appelle l'homéothermie, c'est-à-dire la température du corps est relativement constante. Les oiseaux et les mammifères ont inventé l'homéothermie. Et ça a permis, bien sûr, de s'affranchir d'une partie des changements de température, etc. D'accord ? Voilà, c'est juste pour montrer. Et l'homme, là-dedans, ben, il fait partie du système. Hein, voilà. Donc ça, à regarder avec plus de détails. Un élément intéressant, parce que je traite quand même de la démographie, le gros souci qu'on a, c'est qu'on est trop nombreux sur la planète. Et vous avez certainement entendu parler de l'empreinte écologique, hein, que je développe bien sûr. Eh bien, c'est une catastrophe actuellement. Si on vivait comme les Français, il faudrait au moins 3 planètes et demie, voire 4. Donc, vous imaginez que ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le gâteau, il est là. Vous voyez, nous, on a été piégés, comme l'arroseur arrosé, avec le manque de carton pour la couverture du livre que je vous présente. Hein, il y a eu 3 semaines de retard. Les prix augmentent, la rareté diminue, parce qu'il faut partager à plus nombreux. Nous sommes plus riches grâce à la mondialisation, mais nous sommes plus fragiles, nous, les pays développés, parce que nous avons profité d'énormément de pays en développement. Et maintenant, c'est à nous de rendre la balle. Et là, vous avez vu la COP21, la COP26, on n'est pas prêt de... Même des engagements très modestes, on n'est même pas capable de les assurer. Donc on est encore très loin du compte. OK ? Alors, l'homme là-dedans, vous voyez, il a conquis. Il était en Afrique, il est allé en Europe, il est allé sur toute l'Asie. Et il y a 35 000 ans, il s'est passé un truc important qui a servi à l'extension humaine. C'était une période glaciaire. De moins 80 000 ans à moins 10 000 ans, hein, c'est-à-dire depuis 12 000 ans, jusqu'à 12 000 ans, on était dans une période dite froide. Le réchauffement de la planète, l'homme y était pour rien, il y a 12 000 ans, mais il est arrivé parce que c'est les rotations de la Terre, c'est le Soleil, le positionnement. Donc il y a d'autres phénomènes non humains qui participent au changement du climat. Le climat n'est pas stable, vous allez voir, je vous montrerai quelques schémas. Hein, il ne faut pas croire. Nous, on voudrait un climat stable. Mais si on demande l'avis aux gens, il y a des moments où il faudrait qu'il pleuve, il y a des moments où il faudrait qu'il fasse chaud, mais quand il fait trop chaud, ça ne va pas, il fait trop froid, il fait trop chaud. Bref, ça ne nous convient jamais. Donc, on se met à ce moment-là dans une serre, dans une habitation, et on met le climat qu'on veut. Mais il faudrait que la nature s'adapte à nous, et non l'inverse. Et c'est pourtant l'inverse qu'il faut faire. Donc, s'il y a des changements, il y a une partie qui sont de notre action directe néfaste, mais il y a une partie qui est aussi dans le processus normal de l'évolution. Mais donc, ça veut dire aussi qu'il va falloir s'adapter. Et plus on attendra dans toutes les mesures qu'on propose, etc., plus ça sera difficile à faire. Et plus nous serons menacés. Ça, c'est le danger. Bien. Voilà. Alors l'homme, il y a une évolution, c'est un peu mon dada, et parce que Darwin en a déjà parlé. L'homme a deux attributs anatomiques totalement différents des autres primates et qui lui a permis d'évoluer. D'une part le cerveau, hein, bien sûr, ça c'est important, mais la main. Ça, cette main, elle me permet de tenir des objets, de tenir un micro. Hein, et si vous voulez, c'est une réussite évolutive qui a déjà été signalée par Darwin. La main, c'est une manière de matérialiser les conceptions du cerveau. C'est-à-dire, nous pensons, nous créons à l'intérieur de notre cerveau des éléments, et il faut la main. Du reste, vous avez vu, on appelle ça la main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'est la noblesse. Hein, parce que créer quelque chose, il faut le concevoir dans le cerveau, et il faut avoir l'outil qui est la main. Parce que l'homme a libéré, en étant bipède, il ne sait pas que ça lui a permis de voir, Yves Coppens est revenu sur cette idée de voir plus loin les prédateurs. Ça, c'était un truc, bon, du départ de sa carrière, on fait tous. Et puis après, on apprend. Hein, donc. Mais il aimait bien le dire encore, parce que les journalistes, comme il m'avait dit une fois, tu sais, les journalistes, ils aiment ça. Alors, on n'est pas là pour faire plaisir aux journalistes, on est là pour expliquer des choses. Bien, alors l'homme et les mains, c'est quelque chose de très complémentaire. Hein, et c'est pour vous faire prendre acte, les animaux avaient des pattes pour se déplacer. Donc l'intelligence intuitive qui s'est développée chez les primates, tous ont essayé l'hominisation, c'est-à-dire de mimer. J'ai des lémuriens fossiles, que j'aurais pu vous montrer en photo, en squelette, puisqu'ils ne sont plus là, mais ils ont tenté de mimer un homme. Il y a les singes qui sont arrivés mieux, puisque, à partir d'un chimpanzé, nous sommes les descendants directs des chimpanzés et des bonobos. Donc là, on a 98% ou presque de gènes communs. Alors, Qui sommes-nous ? Ben, c'est une photo juste pour vous montrer les prémices, le pacte qu'on peut faire avec la nature. C'est un malgache et un lémurien. Alors, il y a beaucoup de photos de moi dans le livre. Et si vous voulez, c'est une image intéressante pour concilier la nature et l'homme. Je crois qu'il faut trouver, hein, dans l'optimisation des choses, c'est ça, il faut qu'on comprenne qu'il faut avoir des relations apaisées avec la nature. Darwin, voyez la caricature de Darwin, hein, descendant du singe, les caricatures, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a. Hein. Darwin, à la fin du 19e, a été blâmé par, vous imaginez, toutes les religions de la planète. Bien. Alors, les moteurs de l'évolution, je vais aller très vite. Hein, si vous voulez, il y a deux moteurs dans l'évolution. Comment on change ? On change parce qu'à l'intérieur, on a ce qu'on appelle les mutations, la variabilité génétique. Ça, c'est lié. Vous avez vu les variants, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Hein, vous avez qu'un virus, ça a des variants. Donc ça, c'est la capacité interne à évoluer. Et puis, vous avez le milieu qui sélectionne. Ça, c'est du néo-darwinisme pur et dur. Donc, si vous voulez, tout est lié à ça. Et le rôle de la reproduction est quelque chose de très important. OK ? Bien. Et donc, les critères modernes, morphologiques, phylogénétiques, biologiques, c'est évident. Hein, il y a trois critères. Il n'y a pas que la morphologie. Il n'y a pas que les moléculaires, il y a aussi la barrière reproductive. Donc j'insiste là-dessus et je vous renvoie pour accélérer un peu, je vous renvoie au livre éventuel pour avoir plus de renseignements. Et puis il y a plein, dans la biblio que je cite, il y a plein de documents là-dessus si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant, juste j'en prends un ou deux à titre d'exemple, vous avez tous entendu parler des relations entre les insectes pollinisateurs et les plantes. Ce sont ce qu'on appelle des phénomènes, des mécanismes de coévolution. C'est-à-dire que la plante évolue en même temps que l'insecte. Et il y a une intelligence collective, entre guillemets intelligence, c'est-à-dire que la plante, connaissant les insectes, s'adapte pour attirer des couleurs qui intéressent l'insecte. Et l'insecte s'adapte et ça permet de trouver le pollen qui va féconder et en même temps qui va nourrir l'insecte. Les fruits coloré, par exemple, un fruit coloré va attirer les primates pour être mangé, ce qui va faciliter sa dispersion. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la coévolution. C'est-à-dire que ça évolue en parallèle, mais ça évolue dans un sens de partage entre des végétaux et des animaux. Ça, la biologie et le temps permettent de faire ça. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige ça du haut de tout ? J'y crois pas. C'est pour moi le hasard qui fait bien les choses. La preuve, je suis là et je retrouve des amis. C'est le hasard qui a voulu ça. Bien. Alors, je vous ai présenté des cycles du carbone, des cycles de l'eau. Tout ça, c'est écrit. Donc, ça nécessite effectivement une lecture, si ça vous intéresse. Juste un truc qui est important. Voyez ici, il y a des végétaux. L'eau, la vapeur d'eau, elle est produite à partir des océans, hein, qui évaporent. Et nous, par exemple, on est dans un régime atlantique, hein, et donc ça nous arrose. Mais il faut savoir, l'exemple du bassin amazonien est tout à fait représentatif. En Amazonie, il y a la cordillère des Andes, et le gros des vents vient du Pacifique. Donc vous imaginez que la barrière des Andes bloque tout. Donc le bassin amazonien, il ne devrait pas être plus vieux comme ça. Alors pourquoi il est plus vieux comme ça ? Parce qu'il tombe jusqu'à 8 à 10 mètres d'eau par an. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc tout simple. C'est la vapeur d'eau des végétaux. C'est-à-dire les végétaux font ce qu'on appelle l'évapotranspiration. Vous transpirez quand vous avez chaud, moi aussi. Donc cette transpiration va dans l'atmosphère et elle fait de vrais fleuves. Vous avez peut-être entendu parler dans les médias de fleuves dans le ciel. C'est des fleuves de vapeur qui partent et qui distribuent la nourriture. Oui, en quelque sorte, qui distribuent l'eau, qui permet bien sûr de faire autre chose. Donc voilà. Alors l'évapotranspiration, c'est quelque chose de capital. Vous savez, au bassin amazonien, le chiffre, pour pas prendre du temps, 75% de la pluie qui tombe sur le bassin amazonien est de la pluie issue de l'évapotranspiration des végétaux. C'est-à-dire ça tourne en vase clos à l'intérieur, au-dessus de la forêt, et ça retombe et ça repart. Et tous les jours, en saison des pluies, vous avez un très beau temps le matin, ça évapore à fond les manivelles, ça se stocke. Et l'après-midi, en général, dans ces régions tropicales, c'est un orage, un déluge qui, nous, nous pose problème, hein, parce qu'on a tout de suite des inondations, des catastrophes que, malheureusement, on voit. Là-bas, le milieu est tout à fait adapté à ça, et il n'y a aucun problème pour l'encaisser. C'est, je vous dis, ça peut aller jusqu'à 8 à 10 mètres d'eau par an. C'est encore bien pire que ce que nous recevons. D'accord ? Donc voilà, j'insiste pas plus pour le moment. Alors, où vivons-nous ? Eh bien, on vit dans des systèmes très variés, hein, donc je vais aller vite. Voilà, en gros, comment se distribuent les systèmes écologiques de la planète, ce qu'on appelle les biomes, hein, c'est-à-dire les grands ensembles de forêts à feuillus, de forêts à conifères, de forêts tropicales, humides, sèches, etc. Vous avez là, en gros, tout ce qui est en vert, vert foncé ou vert clair, hein, ce sont des forêts. Donc il y a trois types forestiers, trois grands ensembles forestiers. Le système boréal, qui est extrêmement important, c'est le plus vaste système forestier du monde, le système boréal, les forêts boréales, les forêts essentiellement à conifères et bouleaux, etc. Bien. Ça représente une masse énorme, et justement Greenpeace a souvent mis en avant l'intérêt de ces forêts boréales, et leur intérêt par rapport à la captation du carbone, ou au contraire, si on les exploite, à l'excès de carbone produit parce qu'on détruit ces forêts. Voilà. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec eux à ce sujet. Et puis, vous avez, bien sûr, les zones basses, ce qu'on appelle des prairies, des savanes, hein, des toundras, etc., qui sont des éléments bas et qui, sur le plan de la dynamique de l'eau et du CO2 sont moins importantes parce que les biomasses sont faibles. Et puis, quand il y a forêt, il ne faut pas oublier qu'il y a un sol et un sous-sol. Ça veut dire que dans la forêt, il y a les végétaux, mais il y a aussi la fonte du sol. Et si vous regardez les 30 ou 40 premiers centimètres du sol, hein, il y a l'humus, etc. Donc, il y a autant de captation par le bois, les arbres, que par la fonte du sol. Donc, et souvent, on l'oublie, mais c'est complémentaire, hein, les deux. Et les deux associés font effectivement des captations de carbone qui sont extrêmement importantes. OK ? Alors là, je vais aller très vite. Voilà des forêts boréales au Canada. Voilà des forêts tropicales, tropicales humides, tropicales sèches en bas, et des mangroves, hein, pour vous donner une petite idée. Donc là, il y a des forêts sèches, ça c'est à Madagascar, où vous avez un condensé de tous les types forestiers possibles, ce qu'on appelle les forêts sèches. Là, il tombe à peine 500 ou 600 mm, 800 mm d'eau par an sur 3 ou 4 mois de l'année. Donc voilà. Et si vous voulez, ces forêts tropicales et tempérées n'ont pas du tout la même couche d'humus, si vous voulez. Donc il y a des fonctionnalités du sol qui sont très différentes en sol tropical et en zone tempérée. Si bien que les agronomes tropicaux n'ont rien à voir avec les agronomes tempérés. Nous, les erreurs qu'on a faites dans le passé avec les pays en développement des tropiques, hein, dans notre période coloniale, français ou anglais ou autre, c'est qu'on ne travaille pas du tout dans le même type de milieu et les mécanismes sont très différents. Ça aussi, je l'explique un peu dans le livre. On en arrive à des aberrations de ce type, hein, mais qui sont utiles. Je ne les condamne pas. Simplement, c'est ce que j'appelle, moi, une plantation d'arbres. Ce n'est plus une forêt. Ça ne devrait pas avoir le qualificatif de forêt. Ça devrait s'appeler « c'est de l'agronomie ». C'est de l'agronomie pure et dure. Hein. On cultive des arbres comme on cultive du maïs. On met des plants souvent bidouillés sur le plan génétique. Et puis, on apporte des engrais, des compléments, etc. C'est ce qu'on appelle les forêts de production. Hein. Et ces forêts de production, elles couvrent actuellement sur la planète au moins 8% de la surface forestière. Donc, et il en faut. La preuve, si on n'avait pas eu de cellulose pour le bouquin, ben on n'aurait pas du tout de papier pour vous faire un livre. Donc, si vous voulez, c'est très important. Donc, il en faut. Alors, moi, je suis très en désaccord avec nos forestiers et, en général, le système francophone, ou français en tout cas, parce que les Canadiens, les Québécois, nos ancêtres québécois, sont différents. C'est une approche du zonage. Quand on veut protéger... Il n'y a pas 50 solutions, on met en défense, c'est-à-dire on met hors d'accès. À la limite, on vient s'y balader dans les parcs nationaux pour voir et tout, mais on touche à rien. Hein, on regarde et on touche pas. Et à côté de ça, il faut des zones de développement. Si vous allez un jour au Costa Rica, vous verrez, il y a des zones totalement protégées, magnifiques. Et puis à côté de ça, il y a des plantations de palmiers, il y a des plantations de palmiers à huile, etc. Parce qu'il faut bien du développement pour nous. Hein, on a besoin de ressources ligneuses, on a besoin d'oléagineux, on a besoin de sucre, on a besoin de plein de choses. Donc il faut bien qu'on le fasse. Où on en est ? Presque arrivé. Alors, alors je vais conclure en allant...
C'était l'introduction.
C'était pas l'introduction. Voilà, un truc intéressant, puisque je le vois, j'en profite. Vous voyez, ici, il y a des méandres. Hein. Eh bien, vous savez qu'après la guerre, il y a eu un plan Marshall. Ça, c'est l'impact que je vais développer demain avec les étudiants. C'est sur l'emprise agricole, hein, l'emprise des terres agricoles sur les milieux naturels. On avait là un objectif dans le Jura, de couper les méandres d'une zone pour mettre 2000 hectares d'agriculture. Drainage, couper les méandres, etc. Eh bien, en coupant les méandres et tout, on s'est aperçu qu'en aval, ça inondait. À Pontarlier, par là, ils avaient des inondations parce qu'on activait hein, le courant d'eau. Okay ? Donc maintenant, on a repayé, il y a 30 ans, on a remis des sous pour faire l'inverse, c'est-à-dire pour revenir à la situation initiale, avec des coûts, vous imaginez, doubles. Hein, donc ça. Et puis, finalement, on a remis ce qui était avant, mais en moins bien, puisque, entre-temps, on ne peut pas refaire la nature. C'est quelque chose de très compliqué de refaire. Il faut du temps pour que la nature reprenne ses droits. Et donc, voilà. Et vous avez donc les aménagements à gauche et à côté, une autre rivière, 30 ans après, où il y a un certain équilibre. D'accord ? Voilà. Donc, c'est plein de choses comme ça dans le bouquin. Dans mes conclusions générales, et j'arrêterai là, donc je m'excuse d'avoir été trop long. Vous voyez, j'ai abrégé par rapport à l'autre fois. Mais du coup, je suis parti grâce à des discussions que j'ai eues aujourd'hui, eh bien, je suis parti un peu plus à la dérive que d'habitude, ce qui est souvent mon cas. Voilà. Bon, on a des qualités, on a des défauts. Hein. On n'est jamais parfait. Bien. Donc, le respect de la nature et des ressources est primordial pour l'homme. Ça, vous le savez. Hein. Et Rio a soutenu plein de choses importantes depuis maintenant bientôt 40 ans. Moi, j'étais à Rio. J'ai eu la chance d'être à l'UNESCO à Rio pour présenter un projet opérationnel. Hein. On avait de grands espoirs sur les conclusions de Rio. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu ? Rien. Ça avance pas. Ça avance, mais à des pas de nain, ça avance pas. Donc il faut qu'on bouscule un peu tout ça. L'idée, c'est de prendre maintenant les choses en main, d'analyser tout ça, et non pas de dire c'est catastrophique, mais prenons-nous en charge et allons-y, essayons d'appliquer. Tout est écrit. Et pas que dans le livre, hein, dans plein de livres, il y a... Moi, ma référence, c'est René Dumont. Je ne sais pas si vous avez lu des choses de René Dumont, hein, mais à l'époque, dans les années 70, c'était un peu le Don Quichotte de l'affaire. Hein, et les pionniers, vous savez, en général, ils ne vont jamais très loin, hein, parce qu'on ne les reconnaît pas. Hein, d'accord ? Voilà. Je vais sur les propositions finales. Hein, pour moi, il va falloir revenir à ce que j'appelle l'approche participative. Hein, je l'avais déjà identifié à Rio. À Rio, dans mon projet, les choses principales, c'était approche participative, c'est-à-dire impliquer l'homme, les citoyens dans le processus, en l'informant objectivement. Par exemple, la Convention citoyenne, dont vous avez entendu parler, c'est très intéressant. Mais cette convention citoyenne, j'ai vu la partie biodiversité sur 430 pages. Il y a 20 pages sur la biodiversité et un renvoi. Allez-y, ça vaut le coup. Il y a voir ONF. Et l'ONF, vous avez vu ce que j'en pense. Ils sont bien, mais l'ONF est un organisme pour faire du bois. On confond les fonctions. Il est formé pour faire du bois. Hein. Un agronome, il est fait pour produire des cultures. Un éleveur, il est fait pour produire des animaux, etc. Donc, il ne peut pas s'occuper de choses pour lesquelles il n'a aucune compétence. Donc, l'ONF, moi, je les soutiens quand ils font des forêts de production, parce qu'on a un besoin. Mais je ne le soutiens pas quand ils font de la protection de la nature. Voilà. Donc, il faut que les choses se remettent en place. Vous voyez, c'est des choses de ce type qui vont nous faire avancer et qui font que, moi, je ne perds pas espoir de faire quelque chose. C'est sur ces bases qu'il faut travailler. C'est-à-dire se définir des objectifs plus clairs. Et à partir de ces objectifs bien définis, eh bien on arrivera à quelque chose, à modifier les choses. Donc là, il faut mobiliser le citoyen et lui donner une information la plus large possible. J'ai tenté d'y répondre modestement en partie, mais il y en a d'autres qui doivent prendre le relais, surtout dans les plus jeunes que moi, parce que moi, l'avenir, il est derrière, et les autres ont à gérer l'avenir. Donc, je conclue avec une idée très, très simple. Redonnons à la nature le droit d'exister. Hein, c'est une manière de réconcilier, d'apaiser les relations entre la nature et l'homme. Et je vous remercie et je m'excuse d'avoir été trop bavard. Mais bon, on pourra en reparler, on pourra rattraper le coup à la fin du mois de janvier. Voilà. En tout cas, merci beaucoup.
Alain Blanc, copain de Roland, mais c'est pour une présentation. Professeur émérite à l'Université de Saint-Étienne et université qui aura la joie de vous accueillir en janvier, la date est à préciser, ça sera autour du 20, pour une conférence, une nouvelle conférence de Roland. Et je veillerai à ce que son plan il puisse aller plus loin que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Je vais le coacher.
Il a raison.
Non, allez, j'insiste pas. Non, juste, j'aurais aimé que tu reviennes sur l'idée du changement climatique parce que bon, comme tu le dis, tu as raison, le climat a toujours changé sur la planète, mais hors présence humaine, mais quand même, insiste sur les durées, parce que les changements naturels, c'est en milliers d'années qu'on les a comptés. Là, c'est en dizaines. En quelques dizaines d'années, la température va augmenter d'une manière catastrophique, ce qui ne s'est jamais passé aussi vite.
On est d'accord. Hein, on suit les choses, c'est vrai. Alors, on a cette impression, mais bon... je mets un bémol. Et c'est ça la différence. Nos discussions, hein, tu as vu, on a des discussions super intéressantes. Je mets des bémols, un peu. Hein, pas énorme, mais je mets un peu. Si vous étudiez les couches sédimentaires, c'est pas moi, c'est mes copains géologues, sédimentologues qui l'ont dit. Ils sont capables de voir dans des dépôts de sédiments. Hein, ils sont capables d'identifier la variation d'un sédiment sur quelques dizaines d'années. Ils peuvent te dire, tiens, là, tu vois, il y a des gros graviers, ça a duré tant de temps. Et souvent, ces pas de temps sont de quelques dizaines d'années. Donc, on a des traceurs sédimentaires qui sont à l'échelle de dizaines d'années. Donc, et c'est souvent l'indicateur. Alors, quand il y a des gros graviers, en général, c'est qu'il y a eu des gros orages, il a beaucoup plu. Et puis, quand au contraire, ce sont des sédiments très fins et très peu épais, eh bien, c'est plutôt des sédiments liés à une bien moins grande pluviométrie. Donc, il y a des indicateurs comme ça aussi qui peuvent jouer dans le sens que c'est pas si lent que ça, les processus naturels. C'est pas si lent qu'on veut bien le dire. Voilà. Hein? Alors après, je soumets ça à la discussion et ça serait intéressant de retrouver ensemble des sédimentologues, des climatologues. Moi, je suis pour le travail en commun, l'intelligence collective. Je suis un partisan de l'intelligence collective. Chacun dans son domaine apportant des contradictions, de discuter, parce qu'il y a peut-être des argumentaires aussi. Ça ne veut pas dire que ça nous... il ne faut pas exagérer l'influence de l'homme. Elle est importante actuellement. Tout à fait d'accord. Le GIEC, pour moi, puisqu'on parle du GIEC, hein, le climat, c'est le GIEC, vous savez de quoi est constitué le GIEC au niveau des disciplines, en majorité. C'est quoi les climatologues, après vous? Il y a des glaciologues, hein. Il y a quelques météorologistes qui se sont risqués à la climatologie, mais le gros des climatologues et le gros des labos qui travaillent sur la climatologie, ce sont des physiciens théoriciens. Vous connaissez la physique théorique, ça établit des formules mathématiques et ça calcule, ça fait des modèles. Vous avez vu par la Covid que les modèles, c'est une indication, c'est prédictif, ça a une valeur prédictive intéressante, mais que prédictive. Pas forcément, c'est pas la vérité. Un modèle n'a jamais correspondu à quelque chose une fois réalisé, l'événement, ça n'a jamais correspondu exactement et quelquefois assez divergent du modèle. Parce que ça dépend ce qu'on met dans la machine. Si on met des fausses informations dans la machine, elle va les transcrire de manière fausse. Donc, il faut, je dis pas que, je critique pas, hein, parce que le GIEC, heureusement qu'on l'a pour avoir justement ces orientations. On les a. On sait qu'il va falloir, pour moi, le thermique, il faut stopper. Hein, le thermique, il n'y a pas le choix. Par contre, le nucléaire, je suis nuancé en ce sens que si on arrête le nucléaire dans les 10 ans, là, l'énergie, on ne va pas la payer 3 fois ou 4 fois, on va la payer 10 fois plus cher. Et il va falloir en consommer 10 fois moins. Donc, il y a aussi des questions de réalisme dans nos affaires, parce que si on joue sur la démographie, ça sera très long et très difficile. Donc, il va falloir... Il y a des sources énergétiques. Par contre, comme a dit notre président récemment, mettre 10 unités nucléaires nouvelles, ça veut dire qu'à ce moment-là, il y en a au moins pour 50 ans. Donc là, ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous voyez, c'est toujours dans un peu... moi, je suis du Sud-Ouest, et vous savez, il y a un dicton qui est dans le Sud-Ouest qui dit « on me l'a nuancé ». Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais vous voyez ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des jugements trop catégoriques dans n'importe quel sens, mais il faut quand même avoir un jugement le plus objectif possible. Donc tous ces modèles nous rendent utiles, tout ça nous rend service, et il va falloir qu'on y aille, mais en connaissance de cause. Hein, parce que souvent, et c'est ça que je reproche, hein, en discutant, j'ai vu qu'il y avait dans le... des gens qui me disaient « Oh, l'écologie, il y en a marre, on nous entraîne dans des... Hein, on ne peut plus rien faire. » Non, il faut savoir faire, il faut recomposer, mais il faut se définir ses objectifs. Et ça, on est capable de les définir sur la base de ces prédictions, qui sont extrêmement utiles, hein, pour nous aider à trouver les solutions. Mais si ça aide à convaincre... Moi, l'avantage du GIEC, c'est que ça aide à convaincre quand même d'aller dans le sens... de se faire ceinture et de partager. Parce que dans le bouquin, je n'ai pas eu le temps de vous montrer des camions qu'on envoie en Afrique, hein, qui se plantent. Tu te souviens, en Ouganda, les camions sur les pistes, hein, des grands semi-remorques qui ne sont pas du tout adaptés au coin. Mais c'est toutes nos vieilles casseroles qu'on envoie là-bas, qu'on ne recycle pas et qui vont avoir une vie peut-être plus du double par rapport à ici. Donc, si vous voulez, on demande à ces pays-là en développement d'adopter les mêmes règles que chez nous. Donc, ça veut dire qu'il faut payer. Vous avez entendu parler, hein, des réunions de la COP26 où on s'était engagé à donner 100 milliards d'euros aux pays en développement. 100 milliards à l'échelle internationale, c'est vraiment symbolique. Hein. Et pourtant, on n'est même pas capable. Hein, vous avez vu à la COP26, on n'a pas été capable encore de le faire. Donc, qu'on secoue le cocotier, c'est évident. Et justement, beaucoup de gens me disent aussi, on n'avance pas, il n'y a pas d'action et il faut trouver des moyens d'agir, hein, et non pas simplement de blablater, comme l'a dit encore récemment Greta dans un discours à la COP26. Voilà, ça répond un peu à ta question. Pas totalement, mais on rediscutera. Non, mais avec Alain, c'est bien, parce qu'après, chacun de son côté, on réfléchit et on évolue. D'autres questions, oui.
Bonjour à tous. Bon, puisqu'il faut se présenter, je vais me présenter comme une ancienne présidente d'association citoyenne qui a depuis rendu son tablier, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, justement, c'était par rapport aux citoyens que je voulais vous poser une question. Cette convention citoyenne dont on a eu les conclusions, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été mises en place à la suite de cette concertation, entre guillemets. Donc, quels sont les pouvoirs réels des citoyens par rapport à ce que vous venez de décrire, en fait ? Merci.
Alors, les citoyens, si vous voulez, l'idée politique, elle n'était peut-être pas celle qu'elle aurait dû être, hein, d'une chose. Et d'autre part, si vous voulez, ça dépend comment on organise la conférence citoyenne. Si vous voulez, elle a été... Il y a, par exemple, sur le transport, 120 ou 130 pages sur le transport. Bon, c'est bien trop. Ça veut dire, sur 400 pages, il y a déjà presque plus d'un quart, hein, sur un seul, le transport. et très orienté sur le contre l'avion et tout pour le transport. Il n'y a rien sur la reconversion de moyens de transport individualisés. C'est tout en commun, en transport en commun. Le transport en commun, on sait que c'est utile. On sait que dans les centres urbains, c'est normal et il faut les encourager. Hein. Mais le transport individuel, en dehors du vélo, on n'a pas d'énormes propositions. Donc, et on peut voyager en train. Moi, vous voyez, je suis venu en train. Je n'ai pas envie de venir en voiture dans les coins comme ça. Mais si on est quatre, eh bien, on réfléchit et on se dit on aura une indépendance. Et à quatre, ça coûte moins cher de venir en voiture que de venir en train. Donc, si vous voulez, il faut prendre en compte, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que quand on pilote, je connais bien Tubiana puisqu'elle était à Rio en 92, et si vous voulez, chacun a son dada et sa manière d'orienter. Quand on informe les citoyens, ils sont au courant de rien. Moi, quand je vous informe, vous n'avez pas tous les éléments pour juger. Donc, vous aurez les éléments si vous attaquez une lecture et qu'au bout d'un moment, après réflexion, vous m'apportez quelque chose. Alors là, c'est utile. Hein. Mais il faut que ça soit bien ciblé. C'est une question d'organisation et de ciblage. Hein. Donc, et 20 pas sur la biodiversité en se référant à l'ONF, c'est presque un scandale. Ce qui est dommage parce que c'est une conférence qui, pour moi, est importante. Et il faut en proposer d'autres. Pour moi, il faut en proposer d'autres. Mais il y a un Parlement aussi, au niveau politique. On ne peut pas proposer aussi n'importe quoi. Hein. Il faut être cohérent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont acceptables. Et puis, il y a des choses, manifestement, qui sont de l'ordre de la provocation ou d'une mauvaise connaissance des réalités, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Vous savez, il y a peu de gens qui ont une vision de notre recherche. Tout notre système actuel est basé sur des œillères. C'est-à-dire qu'on forme des gens de plus en plus spécialisés. Or, je suis un ardent défenseur des spécialités de généralistes. Par exemple, dans le domaine médical, je trouve qu'un médecin généraliste devrait être spécialiste de la généralité de la médecine. Si vous voulez, c'est une spécialité. Or, on met le généraliste comme un sous-médecin, alors que l'autre, le spécialiste, lui, c'est un grand médecin. Ça, c'est un scandale. Donc, si vous voulez, il faut prendre conscience de tout ça. Et c'est pareil pour la Convention citoyenne. Et ceux qui étaient là-dedans, c'était que des spécialistes. Je les connais, hein, la moitié de la Convention citoyenne, c'était que des spécialistes. Ils parlent de ce qu'ils connaissent. Ils ne parlent pas de l'aspect plus global des choses. Et ils n'en sont pas conscients. Alors, si on ne fait pas le tri un peu de tout ça, eh bien, on aboutit à des... Hein, vous vous rappelez les 110 km/h. Là, c'était peut-être aller trop loin. Les gens n'avaient aucune idée de la réalité des choses. Vous avez vu, ça a été très vite retiré. Bon, en écologie, moi, avec Hulot, à l'époque, on défendait la fameuse taxe écologique. Bon, elle n'a pas marché parce qu'il y a eu les gilets jaunes, parce qu'il y a eu des choses comme ça. Mais c'était évident qu'il fallait. Et moi, j'ai posé, par exemple, une autre question. Hein, le tout électrique, j'appelle ça pratiquement une fausse bonne idée. Parce que le tout électrique, ça veut dire... Si, parce que ça veut dire qu'il va falloir plus d'électricité. Et avec quoi on fait l'électricité ? Pour le moment, la majorité de l'électricité mondiale, c'est le charbon. Vous vous rendez compte ? Alors, on va réduire le charbon, mais on ne va pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc, et pourtant, il faudrait l'arrêter urgemment. Donc, ça fait longtemps qu'on aura dû avoir des stratégies pour arrêter la production et la commercialisation du charbon. Bon, et le pétrole, c'est la même chose. Mais pour ça, et l'électrique, pour moi, c'est une solution transitoire de court terme. Parce que l'avenir, c'est l'hydrogène. Pour moi, c'est la source inépuisable d'énergie. Mais il va falloir maîtriser l'électrolyse. Et l'électrolyse, eh ben, il faut de l'électricité. Bon, donc, vous avez vu Macron qui a fait un truc super. Alors là, au niveau intelligence politique, en disant on fait du nucléaire pour faire de l'hydrogène propre. Hein, l'hydrogène propre, c'est l'électrolyse au lieu d'utiliser les matières fossiles pour en tirer l'hydrogène. Donc, vous voyez la perversion de tout ça. Et donc, là, il faut des arbitres. Et c'est pour ça que je le disais au début, hein, il faut un arbitrage musclé à l'échelle la plus haute des États et de la planète. Tant qu'on n'arrivera pas à ça, on ne pourra pas. Et puis, derrière, de décliner des objectifs clairement établis, justement, pour dynamiser ces conférences citoyennes. Moi, j'y crois énormément, j'en ai proposé plusieurs dans le document, pour, justement, tenter d'apporter des solutions aux politiques, hein, et le livre, moi j'espère que les politiques vont un peu s'en saisir, les regarder et voir s'il n'y a pas quelques idées à reprendre. J'en serais absolument ravi. Voilà.
Vous avez répondu en partie à ma question, mais j'aurais voulu avoir votre avis sur l'énergie nucléaire.
Alors, le nucléaire, voilà, hein, je vous ai dit, tant qu'il y a, là, on a encore des unités qui sont capables de produire, hein, pour le moment, je ne vois pas comment on pourra les supprimer dans un avenir proche. Vous vous rappelez, pour arrêter la première, le temps que ça a demandé, et ce n'est pas fini, parce qu'il faut, elle n'est pas encore démantelée, cette unité. Elle est juste arrêtée. Vous imaginez le problème que ça va poser. Et puis, l'éolien. Alors, donc, si vous voulez, l'énergie nucléaire, surtout pour la France, ou quand même dans notre mixte énergétique, on est encore à près de 60%, 70% d'électricité nucléaire, ce qui est énorme. Si on fait harakiri sur 70%, ça ne va pas. Regardez les Allemands, ils ont peu de nucléaire, ils en avaient peu, ils basaient plus sur d'autres énergies, notamment le charbon et le gaz. Hein. Est-ce que c'est mieux ? Donc, ils ont supprimé le nucléaire, mais pas complètement. Ils nous achètent du nucléaire. Alors, est-ce que c'est en nous achetant du nucléaire qu'ils se greenisent ou... Ça pose des soucis. Là, vraiment, on a des soucis. Donc, moi, je suis pour le nucléaire à moyen, long terme, surtout, oui. Il faut l'arrêter. Donc, pas construire, en tout cas, ce que proposent des EPR, 10 EPR ou 6. Là, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est pas normal. Hein. Mais de là à arrêter en catastrophe pour politiquement répondre à certaines pressions, là non plus. Et, si vous voulez, il faut qu'on garde pour le moment ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, on est très loin du compte. Pour faire un parc éolien, vous savez combien il faut de temps en France ? Pour faire un parc éolien, à partir du moment où on décide, on dit là, on fait un parc éolien. Il faut minimum entre 10 et 12 ans, 10 à 12 ans, pour qu'on puisse tirer le premier kilowattheure d'une unité éolienne. Et puis, vous avez quelqu'un qui s'appelle Jean Covici, je ne sais pas si vous connaissez, qui est justement un peu, et c'est un peu ses points de vue que je rejoins. C'est-à-dire que le nucléaire, pour le moment, on ne peut pas s'en passer encore. C'est un peu trop tôt. Mais il ne faut pas investir trop dans le nucléaire. Éventuellement, quelques petites usines, là, ce qui propose les micro-centrales, où nous sommes très en retard par rapport aux Chinois ou aux Américains. Hein, de toute façon, on est très en retard. Vous savez que les panneaux solaires, chez nous, ils sont encore fabriqués essentiellement par la Chine. Donc, et si vous faites le bilan énergétique de toutes ces productions d'éolien ou de photovoltaïque, quand je fais un bilan énergétique, il faut aller de la source, c'est-à-dire du minerai qu'on va extraire, l'énergie qu'on dépense pour extraire le minerai, le transporter, le transformer et en faire le produit final qui est la mécanique qui va marcher. Bien, il faut faire du béton pour accrocher les éoliennes. C'est une dépense énergétique énorme. Une éolienne, ça vit 20 ans, 25 ans maxi. Hein, moi, j'ai vu aux États-Unis des éoliennes arrêtées, des champs d'éoliennes arrêtées, parce qu'ils nous ont dit, ça y est, elles ont fait leur temps et elles ne sont plus viables. Donc, elles s'arrêtent. Donc, il faut les démanteler. Et les recycler autrement. Donc, et ça compte dans les dépenses d'énergie. Ben, si vous faites ces dépenses d'énergie et que vous calculez ce que ça a rapporté pendant ce temps, ben là, vous commencez à réfléchir. Et donc, il faut avoir... Moi, j'ai même eu un DESS sur le développement durable où on avait développé toute une série de cours sur les problèmes de bilan énergétique. Et il faut les prendre... du début, pas économique, parce que l'économie modifie. L'économie, il y a les subventions, hein, par exemple, qui peuvent aider. Bon, mais le tout électrique, une question que je me pose dans le livre et que j'ai posée déjà des députés à l'époque de Hulot, c'est le manque à gagner des produits pétroliers. C'est taxé, et vous avez vu que les taxes sont énormes. Qu'est-ce que va faire l'État quand il n'aura plus ses taxes ? Il va taxer l'électricité. Alors, j'ai demandé aux députés, vous êtes prêts à taxer l'électricité ? Ah, vous y avez pensé ? Ils n'avaient même pas pensé. Donc vous voyez où on en est rendu. Nos députés, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, étaient interloqués qu'on leur pose cette question. Et pourtant, il faut se la poser. Pour moi, l'électricité, elle ne va pas tarder à être taxée, au moins pour le transport. Parce que c'est... Donc, on se retrouve coincé dans le système. C'est ces réflexions qu'il faut apporter, à mon avis, en tant que vision d'ensemble. Moi, je suis pour l'action locale, vision globale. L'effet zoom, ce que j'appelle l'effet zoom. Hein, si vous faites des photos de paysage, vous voyez le paysage en grand, et vous le voyez, vous avez une autre idée du paysage quand vous faites des détails. Il faut les deux pour avoir une idée de l'ensemble. Si vous faites que du petit, hein, en détail, vous ne voyez plus l'ensemble. Et il faut donc ces ensembles situer et faire des allers-retours entre le général et le particulier. Hein, cet effet zoom est absolument indispensable. Et ça, c'était un peu l'esprit du livre, c'est d'essayer de vous donner des idées d'ensemble pour vous donner les moyens de comprendre comment réagir au mieux et vous-même. C'est-à-dire, c'est pas, y a pas des leçons disant « voilà comment il faut faire, y a qu'à, faut que ». Non, c'est « y a des solutions possibles, à vous de réfléchir et de proposer ou de voir dans quelle direction on peut aller ». Voilà.
Bien. Merci.
Donc, je vous ai répondu, hein, pas en vous disant « on les supprime demain ». Voilà, c'est clair.
Bonjour, Baptiste, ingénieur industrialisation. J'aurais souhaité savoir, votre discours, il se veut plutôt optimiste, mais j'ai l'impression qu'en fait, les lobbies sont trop puissants et que les choix ne sont pas forcément faits au bon endroit. Je prends par exemple les porte-conteneurs, qui dès qu'ils sont dans les eaux internationales, ont tous les droits de polluer. Et le système politique français qui taxe, par exemple, l'automobile sportive, qui représente une infime partie du parc mondial, ou ce genre de décalage, en fait. Comment est-ce qu'on va, quel levier on va pouvoir avoir pour essayer de rétablir un peu tout ça?
Alors, revenez à ce que j'ai dit au niveau de l'aspect décisionnel des choses. Je vous ai dit, il faut que les États aient un arbitre de développement dans l'ensemble d'un pays, c'est-à-dire économique, social et environnemental. Il nous faut des structures capables de donner des directives qui prennent en compte énormément de choses, hein, complexes, très complexes. Donc, c'est par ce biais qu'on arrivera peut-être à influencer, à mieux juger. Bon, la caricature était, vous voyez par exemple à Bordeaux, le maire qui propose de supprimer un sapin. Bon, c'est symbolique, son idée de transformer un sapin. Si j'ai l'occasion de discuter avec lui, j'aimerais bien discuter avec des gens comme ça. Bon, c'est bien, ça fait... Mais c'est pas ça qui va régler le problème. Il nous faut du bois. Hein, il nous faut... Et le sapin... qu'il ne veut plus couper. De toute façon, c'est un sapin planté qui fait partie de ces fameuses forêts de reboisement. Pour moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des sapins qu'on coupe, puisqu'on les a plantés. Pour moi, c'est comme si on ne récoltait pas du maïs. Ça serait aberrant. Si on plante du maïs, c'est pour le récolter. Si on plante des arbres à l'ONF ou ailleurs, le privé plante des arbres, c'est pour l'exploiter et en retirer des ressources financières. Hein. Donc, il faut être tout à fait cohérent. Donc, il ne faut pas aller dans l'absurdité. Moi, je trouve qu'on va trop dans l'absurdité. Et l'absurdité, eh bien, crée le blocage. Et du coup, on ne peut pas discuter. Mais c'est vrai que le capitalisme pur et dur, à l'occasion, vous voyez, avec le tout électrique, vous avez un exemple typique de la récupération par les grands groupes. Parce que là, ils voient une opportunité de revendre du matériel nouveau. Ça veut dire qu'on écrase tout l'ancien. Donc, en matière de production, eux, ils sont très gagnants. Tous ceux qui font des voitures, en ce moment, ils se précipitent sur l'électrique parce que ça leur rapporte des sous. Ils vendent des véhicules. Donc, c'est un marché nouveau, donc très prometteur. Au moins pour les 5 ou 10 ans. Et après, eh ben, on leur dira, c'est l'hydrogène maintenant, ben, hop, ils repartiront là-dessus. Il faut éviter... Comment ? Absolument. Donc il faut éviter ce genre de choses. Il faut l'anticiper terriblement. Et il faut qu'il y ait des structures au niveau national, donc à mon avis, comme je le dis, au niveau primature, et au niveau international, le programme des Nations Unies pour l'environnement du Kenya, de Nairobi, n'a aucun pouvoir et aucun moyen. Il va falloir une structure, je vous l'ai dit, type OMC, hein, c'est-à-dire avec des compétences fortes et des choix plus forts. Et puis, il y a quand même nos aspects démocratiques, nos parlements et autres, qui sont là pour après juger. Mais quand je discute avec les parlementaires, souvent, ils savent peut-être faire des lois, et encore, mais souvent, ils ne sont pas compétents. Je suis ahuri du niveau de connaissances qu'ils ont, en tout cas dans le domaine de l'environnement et de l'écologie. Hein, c'est en général hyper faible. Même les écologistes politiques ont une connaissance souvent pas très claire de l'écologie scientifique, c'est-à-dire de tous les mécanismes qui animent le vivant et qui permettent de comprendre comment ça fonctionne, etc. Hein, c'est pas la même chose. Hein, voilà. Donc il faut que tout le monde participe et développer la fameuse intelligence collective pour trouver les solutions les mieux adaptées. Je pense qu'on peut le faire encore. Plus on attendra, plus. Mais c'est vrai qu'il y a des gens sur les starting blocks prêts à répondre. Hein. Alors, dans la commission citoyenne, il y a un truc qui est important, par contre, c'est la pub. Il faut absolument réduire la publicité à sa plus simple expression, hein, parce que c'est un moyen. J'ai fait un chapitre sur les besoins. Hein. J'ai recité la pyramide de Maslow. Certains doivent connaître ça. Eh bien, le système permet de vous rendre un petit appareil qui est un peu utile en indispensable et en vital, hein, pour parler des éléments modernes de communication. Donc, si vous voulez, ça, c'est l'art des gens qui savent fabriquer du matériel, et c'est du matériel qui vit de moins en moins longtemps. L'obsolescence programmée, elle est partout. On sait qu'un véhicule, au bout de 15 ans, il va disparaître. Or, on sait faire aussi des véhicules qui peuvent vivre 50 ans. Bon, mais à ce moment-là, c'est une autre approche. Il faut rentrer dans une approche de véhicules qui ne nous appartiennent plus, mais qu'on loue aux besoins. Moi, je suis un partisan de ce qu'on appelait à un moment l'industrie, l'approche de l'industrie écologique, hein, du développement de l'éco-industrie au niveau environnemental. Parce qu'on peut faire des gros véhicules, 50 ans, et on les loue. On a besoin d'un gros véhicule, on va le louer. Le lendemain, on rend le gros et on prend un petit parce qu'on a besoin d'un petit. Ou on a une famille à prendre, on prend un break, etc. Il faudrait. Et à ce moment-là, c'est plus la possession. Vous avez vu la pub sur les voitures, c'est scandaleux. C'est pour développer le machisme, malgré tout. Hein. Donc, c'est quand même un souci, là. Hein. On a une belle voiture, un drag minette. Hein. En Australie, les drag minettes, c'est les gros 4x4, vous savez, pick-up, là. Bon, il paraît que c'est les drag minettes en Australie. Bon, ça m'intéresse. Hein, tous ces grosses bagnoles, il faut les arrêter. Hein. C'est évident. Il y a un type qui s'appelait, que j'ai connu quand j'étais... Parce que vous savez que j'ai été conseiller des conseillers de Bachelot quand elle était à l'environnement. Hein, parce que Bachelot, ça devait être Hulot, le ministre de l'environnement, j'étais dedans. Bachelot, bien sûr, elle était un peu pilotée là-dedans contre ce qu'elle voulait, c'était pas trop son truc, mais en dehors de ça, elle a demandé des conseillers, pas politiques, mais techniciens, un peu connaissant les choses, à Hulot, et donc j'ai fait partie d'une liste qu'elle a repris, et donc j'ai conseillé pendant 2 ans ou 1 an et demi les conseillers des conseillers. C'est très confortable. On dit des choses, on leur propose, et puis, ma foi, ils en font ce qu'ils veulent. Hein, c'est un peu le problème. Mais le problème, c'est justement, ce sentiment de dire, après, ils font ce qu'ils veulent, ça, c'est dommage. Et ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on ait des débats pour qu'ils conduisent à faire ce qu'on dit. Et vous voyez la différence. Donc, à l'époque de Chirac, c'était pas encore mûr pour influer une politique en matière environnementale. Voilà les exemples qu'il faut absolument lever pour aller un peu dans le sens de ce que vous dites. Voilà. OK ? Eh bien, merci pour tout. Merci de me pardonner mon gros défaut, qui est celui de trop parler. Bien. Et voilà. Et puis, comme on dit en Franche-Comté, à l'arvoyotte, pour ceux qui connaissent le langage, hein, c'est comme on faisait allusion à ma vieillesse avancée. Hein, j'allais vous dire au début il y a un dicton en Franche-Comté, on dit avant j'étais jeune et beau, et maintenant je suis plus que beau.